Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Donc bienvenue à notre deuxième édition, donc cette dixième discussion de nos cycles de conférences. Donc aujourd'hui, nous allons donc parler de l'apprentissage du vocabulaire à l'école. Et donc nous avons Madame Oakley qui s'occupera de la modération ce soir. Et voilà, donc je vous souhaite une excellente discussion. Et puis merci à nos intervenants d'être ici. Et je donne la parole à Madame Oakley pour la modération.
Merci beaucoup. Donc je vous souhaite aussi à toutes et à tous la bienvenue à cette table ronde qui porte sur l'apprentissage du vocabulaire. Et donc avant de vous présenter nos interlocuteurs de ce soir, j'aimerais vous raconter une petite anecdote. Et cette histoire est en fait intitulée « La fin d'une carrière ». Assez triste quand même. Et vous voyez bien qu'il s'agit d'un crime. Et j'avais pensé à prétendre que la protagoniste principale de cette histoire, c'est une amie à moi. Mais après, le mensonge me semble quand même trop évident. Et donc, j'avoue qu'il s'agit bien de moi, ou plutôt de moi à l'âge de 16 ans. Donc, comme la moitié de mes frères et sœurs, j'ai en fait fait l'école normale. Parce que voilà, mes parents, ils pensaient comme ça, au moins, ils ont un métier. Et c'était pas trop mal, mais moi, j'avais déjà un plan B, parce que c'était exclu que moi, je finissais enseignante. C'était, non, vraiment pas. Et donc, c'était pour cette raison-là que j'avais décidé de prendre le cours de latin, parce que le plan B, c'était en fait d'aller à l'université pour étudier les langues étrangères. Et à cette époque-là, il fallait encore avoir un diplôme qui attestait d'un niveau élémentaire en latin pour pouvoir le faire. Donc voilà, j'ai choisi le cours, c'était pas si mal, le profil était sympa, l'atmosphère dans le groupe était formidable, on se sentait même un peu exclusif, parce que voilà, on était destiné à quelque chose d'un peu plus important que l'enseignement. On le voit bien là. Donc, vous voyez, j'étais un peu, on pourrait dire, bête à l'âge de 16 ans. Et oui, ça me plaisait quand même de me plonger dans l'histoire des Romains par l'étude de leurs différents dieux. Mais à la fin de chaque chapitre du manuel, il fallait passer un test de vocabulaire qui consistait en fait de traduire des mots du latin vers l'allemand, mais aussi des fois des phrases et des petits passages de texte. Et comme vous pouvez très bien vous imaginer, ça s'est passé pas mal, parce que j'étais sérieuse et studieuse et je révisais régulièrement. Mais il faut aussi dire que le prof, il incluait à chaque fois dans ce test de vocabulaire le vocabulaire des chapitres précédents. Donc il était un vrai professionnel et ça c'était aussi le premier clou dans le cercueil de ma carrière. Donc au cours de cette première année à l'école normale, mon intérêt s'est tourné plutôt vers la vie sociale. Parce que voilà, c'était pas étonnant, on habitait tous, nous habitions tous dans l'internat de l'école normale. Et donc le soir, il fallait sortir et faire la fête. On n'avait plus le temps de réviser tellement. Donc pour un certain temps, ça marchait encore. J'arrivais à me débrouiller avec ces tests. Mais de plus en plus, j'avais du mal à retrouver d'abord les mots latins pour les mots allemands. Après, les traductions, c'était plus tellement évident non plus. Et parce qu'il me manquait non seulement le vocabulaire, mais aussi les bases grammaticales. Et pour finir, même trouver les mots allemands pour les mots latins exclus. Donc, c'était bien la fin de ma carrière en latin. Et vu que c'est assez triste que ça s'est terminé comme ça, et quand il y a une mise à mort d'une carrière, comme c'était quand même le cas, il faut aussi nécessairement trouver le coupable. Et pour faire cela, on a réuni la recherche et l'enseignement ce soir. On va essayer de déterminer qui était le coupable. Et il faut se poser des questions pour cela. Donc, d'abord, n'était-il pas très, très injuste de mon prof de nous demander d'écrire des mots en latin dans une langue morte? Et ça veut dire quoi exactement? Maîtriser le vocabulaire. Ça veut dire reconnaître la forme écrite, la forme sonore. Faut-il savoir les reproduire? Ou faut-il savoir quel sens est indiqué par la forme du mot? Ou faut-il savoir quels concepts sont associés à un mot? Et puis, il faut aussi se demander quel vocabulaire j'aurais dû apprendre. Serait ma carrière encore en vie si je m'avais concentrée sur les mots les plus fréquemment utilisés ou celles faciles à retenir? Et dans ce contexte-là, n'était-il pas la faute, en fait, de mon prof, que moi, je ne reconnaissais pas tellement les mots parallèles ou transparents? Et aurait-il dû proposer des stratégies pour un apprentissage du lexique plus efficace et plus durable? Serait ma carrière encore en vie si à cette époque-là, il y avait déjà les applications smartphone avec lesquelles on peut s'entraîner pour savoir le vocabulaire ou maîtriser le vocabulaire? Et qui est le vrai coupable dans tout ça? N'était-il pas le prof qui n'a pas su susciter assez ma motivation à étudier plus? Ou était-il en fait moi qui a saboté ma propre carrière? Ou faut-il incriminer le plan d'études qui exige des adolescents d'une capacité d'étudier ou de se concentrer à l'étude ou sur l'étude du vocabulaire? Donc, toutes ces questions-là, on va aborder ce soir. Mais d'abord, j'aimerais quand même vous présenter nos interlocuteurs. Und ich habe mich dazu entschieden, hier in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge vorzugehen, nur um das ganz klar zu machen. Und dabei möchte ich mit Ihnen, Audrey, beginnen. Also ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Runde. Vielleicht ganz kurz zu Ihnen. Wenn ich das so sagen darf, Sie korrigieren mich einfach, wenn ich was Falsches sage. Sie sind zweisprachig aufgewachsen und haben dann an der Universität Freiburg ein Lehrerdiplom für die Sekundarstufe 1 erworben, und zwar für die Fächer Französisch als Erstsprache und dann Deutsch und Italienisch als Zweitsprachen. Sie haben dann zunächst in Marly unterrichtet und sind mittlerweile aber an der CEO de la Glan tätig, wenn ich das richtig verstanden habe. Und was muss man noch sagen? Sie sind in sehr vielen Kommissionen engagiert, eben im Bereich Fremdsprachendidaktik, denke ich. Und Sie unterrichten seit diesem Sommer eben Fachdidaktik Deutsch als Fremdsprache an der Universität Freiburg. Und zudem haben Sie 3 Kinder im schulpflichtigen Alter. Und das heißt, dass Sie sozusagen in dreifacher Funktion hier sind. Und wir sehr gespannt darauf sein dürfen, was Sie uns erzählen werden.
Danke.
Herzlich willkommen. Dann kämen wir zu Ihnen, Herr Jucker. Uns verbindet, ja, immerhin zumindest so ein bisschen der wunderschöne Dialekt aus der östlichen Schweiz. Sie haben Germanistik in Zürich studiert, waren dann aber auch in Leipzig und in den Vereinigten Staaten, waren sogar als Lektor in Polen tätig und sind seit 2001 an der CEO Perol als Fremdsprachenlehrer tätig. Und man hat mir eben gesagt, dass Ihnen das Wortschatzlernen sehr am Herzen liegt. Und ich bin sehr gespannt, oder wir dürfen sehr gespannt sein, was Sie aus Ihrem reichhaltigen Schatz an Erfahrungen uns heute Abend mitteilen können. Dankeschön. Damit kämen wir zu dir, Nathalie. Du bist derzeit als Oberassistentin für den Bereich FLÖ am Departement für Fremdsprachendidaktik und Mehrsprachigkeitsforschung, eigentlich umgekehrt, tätig. Und du hast dich bereits in deinem Rahmen deiner Masterarbeit eben mit dem Thema mündliche Sprache auseinandergesetzt und hast für deine Doktorarbeit nun untersucht, welche mündlichen Kompetenzen trainiert werden müssen, um das rezeptive Wortschatzwissen zu erweitern. Habe ich das so in etwa richtig?
À peu près.
Oui. À peu près. Ah, j'ai bien pensé que c'était à peu près. Aber wir werden hoffentlich eben noch von deinen spannenden Erkenntnissen viel heute Abend erfahren. Und dann kommen wir last but not least zu Carmen, die seit 2001, also nein, was erzähle ich hier, seit März diesen Jahres das Sprachenzentrum an der Universität Freiburg leitet, sich für Fragen der mehrsprachigen und, wie sagt man, hilf mir, interkulturellen Kommunikation interessiert und die Ausbildung als Übersetzerin und Konferenzdolmetscherin oder einfach Dolmetscherin, Konferenzdolmetscherin gemacht hat, also von einer etwas anderen Ecke kommt und sicher auch sehr interessante Aspekte in die Diskussion einbringen kann. Ja, und damit kämen wir eigentlich zur ersten Frage. Und bevor ich jetzt das endlich tue, ganz kurz, die Diskussion ist im Prinzip in vier Fragen gegliedert. Die ersten zwei wollen wir relativ, einigermaßen rasch abhandeln und uns dann vor allem auf Fragen 3 und 4 konzentrieren, wo Sie, liebes Publikum, dann gerne auch mitkommentieren, mitdiskutieren können. Donc, la première question de ce soir, c'est que signifie maîtriser le vocabulaire? Donc, l'exemple que vous voyez ici, c'est de Young Words, c'est le manuel qui est utilisé en tout cas en Suisse alémanique à l'école primaire. Et donc là, les élèves, ils doivent reconnaître la forme sonore d'un mot et puis l'associer à une image. Donc, je me suis demandé, Nathalie, du point de vue de la recherche, ça veut dire quoi exactement maîtriser le vocabulaire?
Alors, je vais commencer par provoquer un petit peu. Maîtriser le vocabulaire pour un objectif communicatif, ben, on n'a sans doute pas besoin de plus de 1000 mots de vocabulaire pour cela. Ce serait très facile à enseigner. Et puis, on peut même se poser la question de savoir si on doit l'enseigner, parce que comme dit un chercheur connu que je ne citerai pas, mais on pourrait très bien parler à notre smartphone, et puis le smartphone traduire à notre interlocuteur, et le message serait transmis. Donc, cette question, pour y répondre, je crois qu'il faut l'associer aux objectifs du locuteur. Parce que si on veut établir une relation, donc au-delà du simple processus de transmettre de messages, de transmission de messages, eh bien, ça demande une acquisition du système linguistique bien plus poussée qu'une simple liste des 1000 premiers mots.
Vielen Dank für deine Ausführungen, sehr spannend. Wenn wir gerade schon bei dieser beim kommunikativen Aspekt sind, Carmen, möchtest du etwas sagen zu dieser Frage? In Hinblick vielleicht auch, was es bedeuten könnte, eine gelungene Kommunikation?
Oui, alors, du point de vue de l'interprétation surtout, qui est l'exercice, on va dire, le moins naturel, lorsque vous interprétez en simultané. Vous n'avez pas le temps de vous retourner. Donc, dans cet exercice précis, maîtriser le vocabulaire prend une signification très particulière, qui n'est pas applicable au quotidien. Au quotidien, je dirais, maîtriser le vocabulaire, ça veut dire comprendre et se faire comprendre. Maintenant, si on applique cela à l'interprétation simultanée, je n'essaye pas de me faire comprendre et de transmettre mon message, mais le message d'un autre intervenant qui parle dans une autre langue. Et cela veut dire que pour un interprète, maîtriser le vocabulaire, ça veut dire maîtriser un vocabulaire qui permet d'exprimer des pensées qui ne sont pas les nôtres, d'exprimer des émotions qu'on ne ressent pas et d'exprimer des avis avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. Donc ça veut dire que on n'arrive pas à ce moment-là, évidemment, à s'en sortir avec les 1000 mots qui nous permettent de nous faire comprendre au quotidien, parce qu'on est dans un exercice extrêmement contraint et extrêmement complexe à ce niveau-là. Donc maîtriser le vocabulaire, je dirais, pour les interprètes, c'est un enjeu très très sensible, parce qu'au final, on est toujours dans une situation d'incompétence relative et on est toujours mis constamment face aux limites de nos propres compétences. Donc pour un interprète, le vocabulaire, c'est quelque chose qu'on finit jamais de maîtriser.
Das ist ein spannender Gedanke, eben, dass das Wortschatzlernen eigentlich nie aufhört. Spannend ist auch die Frage, was man denn erwarten kann, jetzt gerade im schulischen Kontext auch, von seinen Schülerinnen und Schülern im Hinblick auf Wortschatzbeherrschung. Was sind da eure Erfahrungen?
Also im schulischen Kontext arbeiten wir momentan mit Lehrwerken, die eher kommunikativ sind. Das heißt, also, wie es Nathalie schon gesagt hat, das Ziel ist eben, dass die Schüler mit diesem Wortschatz dann sprechen können, etwas höher, also höher verstehen können, dass sie auch etwas schreiben können und eventuell dann auch noch sprechen können natürlich. Und den Wortschatz, den wir den Schülern dann beibringen und die Liste, die wir dann den Schülern geben, sind eine Hilfe dafür, dass die Schüler sich dann eben diesen 4 Kompetenzen dann trainieren können und etwas machen können. Das ist unser Ziel in der Schule. Jetzt weiß ich nicht, ob Peter etwas anderes zu sagen hat.
Also in den beiden Werken, Lehrwerken im Englisch und Deutsch, ich finde, die sind beide relativ gut gemacht. Und wir sollten das B1 erreichen für Englisch und für Deutsch. Und im Englisch gibt es Wortschatzlisten pro Niveau, also A1, A2, B1. Und ich würde jetzt mal sagen, für B1 im Englisch sind das etwa 3000 Wörter. Und ich glaube, das bringen wir in den 3 Jahren Sekundarschule hin, weil sie haben ja schon in der Primarschule etwas gelernt. Im Deutsch bin ich mir nicht ganz sicher.
Ob das Ziel erreicht wird?
Ja, das Problem im Deutschen ist, es gibt weniger Forschung zu und Untersuchungen und Listen zum Wortschatz, weil Cambridge, die analysieren regelmäßig schriftliche Texte, mündliche Texte, High-Frequency-Wörter, Kindersprache, Jugendlichensprache. Und dort kann man ist der Wortschatz, finde ich, ziemlich klar definiert. Und man kann sagen, A2, Jugendliche, diese 2000 Wörter sollten sie etwa kennen.
Genau, also das stimmt natürlich, oder, dass im Englischen das sehr viel klarer definiert wird. Sie sprechen jetzt auch schon an die Frage von den Wörtern, die eben besonders oft verwendet werden und ob man die wahrscheinlich auch eher früher lernen soll. Verstehe ich das richtig?
Idealerweise schon, ja.
In welche Richtung das geht. Und das leitet eigentlich im Prinzip auch wunderbar zu meiner nächsten Frage über, nämlich eben, ja, welchen Wortschatz wir denn da jetzt überhaupt lernen sollen. Ich habe die 2 Lehrmittel Genial Klick und ich glaube, es wird jetzt langsam, aber sicher nicht mehr wirklich oft benutzt, Envol. Ich glaube, das wird jetzt nicht mehr oder fast nicht mehr oder nur noch so ein bisschen. Auf jeden Fall sieht man an diesen beiden Bildern, oder, dass da zunächst einmal, dass es eben diese Wortschatzlisten gibt. Das ist natürlich sehr praktisch, wenn man zu jeder Einheit oder zu jeder Unité genau weiß, welche Vokabeln dazugehören. Ich nehme an, das ist ein bisschen anders bei euch und ist auch anders bei anderen Niveaus oder je nach Lehrmittel. Und man sieht, dass diese Listen in 3 Niveaustufen eigentlich unterteilt sind und dann auch die Übungen, die dazugehören. Und mich würde sehr interessieren, wie ihr mit diesen Listen denn ganz konkret arbeitet und ob das jetzt überhaupt möglich ist, diese Unterscheidung von diesen drei Niveaus zu machen.
Dann im Wortschatzheftchen dann finden, sind Wörter, die wir in den Texten oder den Hörtexten dann vom Kursbuch zuerst mal mit den Schülern entdecken, lesen, hören, sprechen, nachsprechen, schreiben eventuell. Und erst dann müssen dann die Schüler zu Hause diesen Wortschatz dann üben und arbeiten. Und wir sehen eben diese kleinen blauen Kästchen, das heißt eben, das ist die Binnendifferenzierung, die wir in Genial Click haben. Und diese Differenzierung machen wir eben im Kanton Freiburg zwischen EB-Schüler, G-Schüler und PG-Schüler. Das heißt, die PG-Schüler haben die ganze Liste, die G-Schüler haben weniger Wörter und die EB-Schüler haben eine geringere Liste. Jetzt ist vielleicht Peter hat das mehr im Griff. Er hat eben EB-Schüler. Jetzt weiß ich nicht, wie er mit den Schülern dann arbeitet, wenn er nur die Hälfte der Liste bearbeiten muss und mit dieser geringeren Liste dann auch die Schüler zum Sprechen bringen kann. Ich habe immer PG-Schüler, das heißt, sie müssen die ganze Liste lernen. Das ist dann für uns natürlich einfacher. Es gibt auch Schüler, die dann auch mehr Wörter lernen können oder die dann um etwas zu sprechen, um etwas zu beschreiben, auch eigene Wörter brauchen, die dann nicht in der Liste sind, die können sie dann dazu schreiben. Ich denke mal, das ist auch ein bisschen persönlicher und subjektiv. Wenn ein Schüler dann ein Wort braucht, müsste er es dann auch lernen, also wissen. Ich weiß, wenn Sie von Hobby sprechen zum Beispiel oder von der Familie, wenn für einen Schüler ein spezifisches Wort kommt, dann sollte er es kennen, auch wenn es nicht in der Liste ist. In der Schule, also in der Klasse, wenn ich dann eine Übung mache, dann am Ende der Klasse, am Ende des Unterrichts, sage ich einfach den Schülern, jetzt nehmt ihr einen Marker und wir markieren die neuen Wörter, die wir jetzt gesehen, entdeckt haben, und das sind jetzt die Wörter, die ihr für den nächsten Unterricht lernen müsst. Also konkret machen wir es so, also ich mache es so auf jeden Fall. Jetzt weiß ich, dass einige Kollegen auch so Wortschatzlisten machen und das kleine Wortschatzheftchen dann anders wie organisieren als thematisch. Und dann können sie eben den Schülern dann sagen, okay, lernt die 10 ersten Wörter, und das ist dann eher mit dem Programm, dann, also mit dem Unterricht dann spezifisch für ihren Unterricht dann organisiert. Aber ich arbeite wirklich mit dem Lehrwerk, wie es so gemeint ist.
Wie sieht das bei dir aus? Oder bei Ihnen, besser gesagt?
Also wir benutzen die Liste nicht. Ich habe hier, das ist, wenn jemand etwas über Wortschatz lernen will, 10 Best Ideas for Teaching Vocabulary, das ist ein Artikel von 2005. Wir machen ziemlich viel von hier. Und hier ist eines der besten Ideen, ist Create Your Own Lexical Syllabus. Das heißt, wir wählen den Wortschatz. Und ein Challenge von Genial Click und auch von English in Mind ist, dass wir sehr viel Auswahl haben. Und wir müssen viele Dinge weglassen, können auch Zeugs dazunehmen. Und wenn wir den Kurs vorbereitet haben, dann gehen wir durch unsere Unterrichtsvorbereitung und schauen, welche Wörter müssen sie lernen. Und wir machen so, dass in EB-Klassen, in Deutsch, pro Kapitel machen wir 64 Wörter und wählen dann die Wörter aus, die wir im Unterricht auch sehen.
Wenn Sie sagen wir, meinen Sie dann Sie als Team oder mit Ihrer Klasse?
Als Team, ja.
Sehr spannend.
Und ich weiß jetzt noch nicht, ob das schon dazugehört. Wollen wir schon darüber sprechen, wie wir dann im Unterricht das machen, oder...
Wenn wir das noch kurz ausklammern dürften, ja, wäre das hervorragend. Jetzt, wenn wir von diesen Listen sprechen, Nathalie, könntest du uns ein bisschen mehr dazu sagen, wie solche Listen denn überhaupt zustande kommen?
Moi, j'aurais une question qui répond pas vraiment à ça, mais qui les façons de travaillent l'étendue du vocabulaire et pas sa profondeur. Hein. Les façons qui ont été décrites. Comment vous travaillez la profondeur du vocabulaire?
Ich verstehe die Frage nicht.
Par exemple, le vêtement, on pourrait travailler la famille de mots, le vêtement, se vêtir, etc., etc. C'est-à-dire, plus les ramifications lexicales, plus le travail de la morphologie, des choses comme ça. Et les listes sont des items indépendants, comme si la langue était, et le lexique étaient faits de petits bouts collés les uns aux autres. Donc ma question était... Comment faites-vous au niveau de l'enseignement pour travailler cette profondeur du vocabulaire au-delà de la liste?
Ja, also ich arbeite nicht mit Listen, sondern mit Kärtchen. Aber am Schluss kommt es dann wahrscheinlich aufs Gleiche heraus. Für mich sind die Wörter so ein bisschen wie die Legosteine. Wenn wir Legosteine haben, wir lernen nicht oder wir kaufen Lego nicht, um Legosteine zu haben, sondern um ein Auto zu bauen, um ein Haus zu bauen. Aber man braucht die Legosteine. Und das machen wir dann nachher, um einen Text zu verstehen. Also der Wortschatz, den Sie vielleicht jetzt gelernt haben, hilft, um einen Text zu verstehen oder um zu beschreiben, was ich gerne esse und warum ich das gerne esse und warum ich das nicht gerne esse, was meine Freunde essen, was ich am Morgen esse. Also mit dem Wortschatz muss nachher etwas gemacht werden, das ist schon klar, ja.
Alors, si je peux me permettre, moi, en tant que chercheur, j'ai une vision de la structure du lexique qui est complètement différente de la vôtre. C'est-à-dire que, pour moi, une représentation lexicale, elle est composée de plusieurs dimensions. Et ces dimensions sont liées par des réseaux neuronaux d'activation. Donc, quand on active la valeur phonologique, le son, eh bien, on active aussi la valeur orthographique. Et puis, on active aussi la valeur sémantique. Et puis, ces parties de cette représentation lexicale sont en lien avec d'autres structures qui ont en commun ces parties. Donc moi, je vois la structure du lexique en tant que chercheur comme une structure dynamique et en relation, et pas du tout comme des blocs de Lego qui seraient indépendants. Et c'est assez intéressant de voir ces deux points de vue, parce que je crois que ça a il me semble que ça a des conséquences sur la façon dont on enseigne le vocabulaire.
Je peux me permettre, je pense que nous, dans l'enseignement, on a une partie, ben justement, une liste de vocabulaire qu'on doit apprendre. Ces listes de vocabulaire, elles sont tirées du thème de la leçon. Donc si on parle de was schmeckt en dixième année, on parle de la nourriture, donc on va apprendre tous les mots qu'on aurait découverts ou entendus ou dont on aurait besoin pour parler de nos goûts alimentaires et autres. Ça veut dire que c'est clair qu'à ce moment-là, on ne fait pas de lien sémantique. Mais par contre, ces mots-là, ils vont quand même les apprendre. Vu qu'ils les apprennent d'un contexte, ils vont quand même savoir les mettre. L'idée, quand même, pour nous, c'est aussi qu'ils sachent les utiliser après en contexte. Donc, ils doivent savoir faire des phrases avec. Dans le petit vocabulaire, ici, c'est pas vraiment. C'est une page où il n'y a pas. En tout cas, pour l'allemand, il y a plusieurs fois des phrases aussi qui sont proposées. Il y a le mot, puis en dessous, il y a quand même une phrase. Donc, on le voit aussi en contexte. On va apprendre Der Tag, mais en dessous, ce sera marqué Guten Tag, par exemple, parce que c'est le mot qu'on leur a appris dans le chapitre. C'est un exemple que je prends comme ça, qui n'est pas forcément à l'école secondaire, mais en tout cas au primaire, quand ils découvrent ça. Et puis, mais c'est sûr qu'on ne va pas commencer à leur dire, bon, OK, vous avez computer, puis computer, le verbe, l'adjectif, et tout ça. On ne fait pas ces ramifications-là avec eux, parce qu'on arriverait à plus que 65 mots. Et puis, c'est vrai qu'on essaye le plus possible de les organiser, de leur montrer qu'il y a des organisations possibles aussi, que si on sait dire Übung, on sait aussi dire le verbe üben, et puis on essaie de faire ces ramifications dans le contexte de la classe, mais c'est vrai que dans le vocabulaire, on n'aura pas dans notre liste de vocabulaire des stratégies de ce genre d'apprentissage où on fait par ramification et où l'élève après peut... en sachant Üben qu'il sache tout à faire, tout un panel à notre niveau secondaire 1, je pense que l'élève n'est pas encore en mesure de le faire parce qu'il n'a pas assez de vocabulaire, il n'a pas une richesse de vocabulaire suffisante pour pouvoir se le permettre. Alors, mais par contre on essaie de plus en plus de le leur montrer. Par exemple, je sais pas, si on apprend les adjectifs, les métiers, on leur montre que ben, pour faire le féminin, on met in. Donc après, on fait le petit travail, tout, on prend tous les métiers, ça marche presque pour chacun. Donc ils voient que l'affixe in sert à faire le métier pour le féminin. Donc on essaye. Il y a deux, trois activités où on le fait parce que ça devrait servir pour parler, mais c'est pas notre objectif en tant que tel, disons. Notre objectif, c'est qu'ils puissent se débrouiller pour comprendre et s'exprimer.
Mais en fait, pour comprendre, on a aussi besoin de faire des liens. C'est-à-dire que quand on est en compréhension orale, si on n'a pas la valeur phonologique, si on ne sait pas reconnaître le son pour identifier le mot, ça ne marche pas. Donc on a quand même besoin de liens dans la structure.
Alors, je pense qu'ils se font aussi au fur et à mesure, puis ils le font par mimétisme avec leur langue maternelle. C'est l'impression que j'ai maintenant, mais... C'est vrai que quand ils arrivent chez nous, ils ont déjà pas mal de liens qui sont faits.
Und ich denke, auch wenn ich mich richtig erinnere, wobei es eine gewisse Zeit zurückliegt, eben dass ich selber unterrichtet habe, gibt es schon auch Übungen, die sehr spezifisch eben darauf hinweisen, wie jetzt Wörter zusammengesetzt sind und wie Kollokationen dann eben auch funktionieren.
Und im Lehrwerk sind zum Beispiel Übungen eingeführt mit Wortakzent, zum Beispiel. Also hier geht es wirklich um Phonologie und einige Kollegen verstehen nicht, warum diese Übungen dann im Kursbuch sind und dann erkläre ich, und einige lassen sie dann auf die Seite, weil das ist nicht sehr interessant, machen wir nicht. Die Schüler haben auch Mühe, das zu machen, deswegen machen wir es nicht mehr. Aber ich habe den Schülern erklärt, ja, warum machen wir diese Übungen und wozu es dann auch einen Sinn hat und ab und zu, also ich mache sie dann immer, wenn sie dann vorgeschlagen sind, aber solche Übungen kommen dann auch auf, ab und zu.
In dem Sinne sind wir eigentlich schon halb beim nächsten Schritt, eben das, wie soll man unterrichten, aber wenn wir noch mal ganz kurz bleiben bei diesem Thema, welchen Wortschatz unterrichten wir? Du scheinst sehr konkrete Vorstellungen zu haben, was würdest du denn in diese Bücher Welche Übungen würdest du vielleicht stärker hervorheben oder präferieren?
Comme l'accès lexical est extrêmement lié à la reconnaissance du son du mot, je crois qu'il est extrêmement important d'apprendre en même temps qu'on apprend la valeur sémantique, d'apprendre quel son fait le mot, parce que pour le reconnaître, on a besoin de maîtriser ce lien entre sémantique et valeur sonore, valeur phonologique du mot. Mais pour répondre à la question de quel vocabulaire apprendre, moi, quand j'ai lu cette question, je me suis dit, mais moi, en L1, je ne maîtrise pas le vocabulaire dans plein de domaines. C'est-à-dire que quand je pense au vocabulaire spécifique de l'escalade, par exemple, où il parle d'artifs, de tas de mots, je n'ai pas idée de ce que ça veut dire. Donc je me suis dit, mais on ne maîtrisera jamais de toute façon l'ensemble du vocabulaire. Et la question, ce qui me ramène à mon domaine de recherche, c'était de me dire, si on comprend comment est structuré notre lexique, alors peut-être qu'on peut trouver des façons d'aborder cet enseignement pour qu'il soit moins difficile, moins laborieux, plus motivant pour les élèves. Voilà la démarche que ça a engendré, cette question de quel vocabulaire faut-il apprendre.
Ich denke, gerade du, Carmen, in deinem Beruf oder als Dolmetscherin, ihr habt ja nicht eben vorgegebene Listen und trotzdem müsst ihr euch immer wieder in ganz neue Themenbereiche einarbeiten. Wie geht das schnell? Also hast du hier irgendwelche Tipps für uns?
Also schnell geht es nicht. Abkürzungen gibt es eigentlich nicht. Was ich auf jeden Fall nur bestätigen kann, ist die Idee mit den Netzwerken. Für uns natürlich besonders diese Netzwerke zweisprachig. Also für Dolmetscher gilt, wenn man ein Wort nur in einer Sprache kann, dann bringt es einem gar nichts. Dann ist es, als könnte man es nicht. Und deshalb immer diese Obsession, sich zu überlegen, welche Entsprechungen gibt es? Ich vereinfache jetzt natürlich, denn die Entsprechungen findet man natürlich nicht nur auf Ebene von einzelnen Wörtern oder von Vokabular, sondern das situiert sich dann auf syntaktischer Ebene, ein ganzer Satz oder eine Gruppe von Wörtern. Aber es ist auf jeden Fall, also was mir immer so ein bisschen Sorge bereitet, ist, dass über den Wortschatz und darüber, wie wir über Wortschatz nachdenken und über Wortschatz sprechen, da kommt so ein bisschen ein kapitalistischer Ansatz hervor. Also von wegen, je mehr Vokabular man anhäuft, desto besser. Und man sollte möglichst sehr, sehr viel Wortschatz haben, wenn möglich in all seinen Sprachen. Und zum gut Kommunizieren gehört dann doch nochmal sehr, sehr viel mehr. Und vor allem kann man auch mit einem relativ begrenzten Wortschatz sehr effektiv und effizient kommunizieren. Und ich komme nicht aus der Sprachendidaktik. Und in der Diskussion, die ich jetzt gerade gehört habe, also etwas, was mich zum Beispiel interessieren würde, ist, ich habe das Gefühl, im Fremdsprachenunterricht auf der einen Seite eben die rezeptiven Fähigkeiten. Man muss komplexe Dinge verstehen können und man muss sich dann einfach ausdrücken können. Und wie ist es eigentlich in der Erstsprache? Und was mir so ein bisschen fehlt, ist auch die Fähigkeit, in unserer Erstsprache jemanden zu verstehen, der sich einfach ausdrückt. Denn man kann sehr komplexe Ideen in sehr einfachen Worten zum Ausdruck bringen und wird dann aber häufig nicht verstanden, weil wir eben so das Augenmerk darauf legen, dass der Wortschatz möglichst komplex und möglichst hochtrabend sein muss und dass irgendwie der Inhalt teilweise dem Wortschatz zum Opfer fällt.
Genau.
Und die Frage ist, gibt es, was den Wortschatz betrifft, wirklich eine so klare Unterscheidung zwischen Erstsprache und Zweitsprache? Ist das etwas grundsätzlich anderes? Weil in der Erstsprache muss man ja auch den Wortschatz ständig verbessern und daran arbeiten. Sind die Strategien wirklich so unterschiedlich?
Ja, ich glaube schon, das ist etwas ganz anderes, weil ich glaube, ich bin halt schon ein bisschen Kapitalist so mit Wortschatz. In der Erstsprache haben wir viel, 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 viel mehr Zeit. Weil man sagt so etwa mit 7 Jahren kann man eine Sprache. Aber da haben die Kinder während 7 Jahren fulltime diese Sprache gelernt.
Wenn sie einsprachig sind.
Mhm. Also, ja. Das ist viel Zeit. Und wir haben dann in der Schule im Vergleich damit schon ganz wenig Zeit.
Dann ist das Wortschatzlernen, also das gezielte Wortschatzlernen, eine Abkürzung.
Abkürzung gibt es nicht. Ich habe mir das notiert. Es gibt es nicht. Und auch das mit dem lästig, das wird lästig bleiben. Aber ich glaube, dort haben die Lehrkräfte eine Aufgabe, dass sie den Wortschatz gut auswählen, dass sie den Schülern Methoden zeigen, wie man das effizient, nachhaltig lernen kann und dass wir den Schülern auch Zeit dafür geben.
Also ich denke, es sind ja jetzt ein paar sehr spannende Fragen aufgetaucht, eben mit, was ist der Unterschied zwischen dem Wortschatz in der Erst- und vielleicht Zweitsprache? Und das bringt uns natürlich eigentlich jetzt zu meiner vierten Frage und leider nicht zu meiner dritten, aber das ist jetzt einfach so. Und zwar der Einfluss der Erstsprachen. Also heute ist es ja häufig gar nicht mehr der Fall, dass man aufwächst mit einer Erstsprache und dann kommen dann die nächsten Sprachen in der Schule dazu, sondern häufig, wenn wir vor einer Klasse stehen, haben die ganz unterschiedliche Sprachbiografien. Und die Frage ist so ein bisschen, wie geht man damit um oder wie kann man daraus vielleicht eben auch Kapital schlagen? Was kann uns denn da die Forschung dazu sagen?
Il y a effectivement une activation des deux langues en permanence qu'il faut gérer, avec des avantages et des inconvénients. Les avantages étant ce qu'on pourrait appeler les transferts, c'est-à-dire un mot qui sonne à peu près pareil et puis qui a à peu près la même signification et qui peut être utilisé plus ou moins dans les deux langues. Et puis il y a tous les aspects négatifs qui font que plus on parle de langue, plus on a de mots activés, moins on a des représentations phonologiques du mot précises, plus on active de candidats lexicaux. Et donc, plus il y a de candidats, ben, plus ça demande de l'énergie cognitive pour choisir le bon. Donc, effectivement, on peut pas dire qu'on apprend la langue étrangère indépendamment de son histoire linguistique. Et la difficulté maintenant, c'est que chaque apprenant a souvent une histoire unique, que ce soit sa biographie langagière, les différentes langues qu'il a parlées, l'âge auquel il les a apprises, etc. Mais aussi les usages qu'il a dans sa famille et en dehors de l'école, puis aussi tous les facteurs émotionnels et puis sa conception des langues, etc. Donc c'est quand même multifactoriel. Et tous ces facteurs interagissent dans ce rapport entre les deux langues et ce que ça produit sur l'apprentissage.
Wie sieht das denn Ihrer Erfahrung nach aus? Also Sie haben ja ganz konkret mit diesen Situationen im Unterricht zu tun.
Ja, was Nathalie gesagt hat, ist dann auch richtig. Also im Unterricht machen wir ab und zu dann eben so parallel zwischen der Muttersprache, also die Erstsprache und die Fremdsprache, die wir dann lernen, wenn es möglich ist. Und dann machen wir ab und zu auch, ja, was sind jetzt die Unterschiede? Also ich mache das ab und zu auch. Was sind jetzt die Unterschiede mit dem Französischen oder so? Und natürlich gibt es auch Schüler, die dann mit dem Englischen, also ich unterrichte Deutsch und dann kommt jedes Mal das Englische und die Englischlehrer sagen dann auch, und sie sprechen dann immer mit deutschen Wörtern. Ich habe jetzt, noch letzte Woche hat mir ein Schüler gesagt, ja, in der Primarschule haben wir immer Englisch und Deutsch zusammen gemacht und das war ein riesiges Chaos in meinem Kopf, weil ich immer wissen musste, ja, okay, jetzt, welche Sprache muss ich jetzt nehmen und hat es jetzt noch nicht im Griff und sagt, ja, und jetzt ist es immer noch chaotisch, wenn ich entweder Deutsch oder Englisch sprechen muss. Also bei ihm war es wirklich sehr, sehr kompliziert, diese zwei Sprachen zusammen zu lernen und zu viele parallel zu machen. Ich denke mal, für einige Personen geht es sehr gut und für andere ist es dann auch komplizierter, das zu beherrschen. Parallel machen, ja, aber nicht immer vielleicht. Muss man auch sorgfältig umgehen.
Also Mehrsprachigkeit sozusagen fast schon als Problemfall oder Behinderung beim Sprachenlernen.
Haben Sie das? Noch spannend, was du sagst. Ich habe in der EB-Klasse immer Deutsch und Englisch zusammen. Und die Schülerinnen und Schüler vermischen ganz, ganz selten etwas. Ich bin fasziniert, weil wenn wir im Deutschkurs sind, dann sprechen sie Deutsch und dann vielleicht mal zwischendurch kommt mal ein englisches Wort oder umgekehrt, aber normalerweise ist das wirklich, in ihren Köpfen ist das sauber getrennt.
Aber du machst eine Stunde Deutsch und logisch, eine Stunde Englisch. Ja. Ich glaube, in der Primarschule hat dieser Schüler eben alles zusammen gemacht, ja. Wenn ich es gut verstanden habe. Ja. Und das war für ihn viel zu kompliziert.
Ja, das überrascht mich dann nicht, ja. Aber so diese ganze Geschichte mit dem Einfluss von L1 auf L2 und so, also ich höre das von der Wissenschaftsseite, aber ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, ehrlich gesagt.
Also spielt in Ihrem Unterrichtsalltag jetzt
weniger? Nein, wir haben jetzt in Genial und Englisch in Mind wird dann teilweise verglichen zwischen Deutsch, Englisch und Französisch. Das mache ich nicht mit großer Überzeugung. Und ich weiß nicht, ob es sehr viel bringt. Ich glaube, wenn man da neue Verbindungen knüpft, das hilft sicher etwas. Aber ich weiß nicht, ob das so effizient ist. Also bin ein bisschen skeptisch.
Ich sehe, dass jetzt einige Personen im Publikum unruhig werden und sich vielleicht auch äußern möchten.
Ich bin offen für Hilfe. Ich brauche Hilfe. Erklären Sie mir.
Zu der Frage, inwiefern es eben sinnvoll oder nützlich ist, andere Fremdsprachen in den Fremdsprachenunterricht mit einzubeziehen oder andere Sprachen.
Ja, wir haben vorher von Verknüpfungen gesprochen, also syntaktische oder so oder semantische Verknüpfungen. Ich denke mal, diese Sprachenverknüpfung ist auch für die Schüler auch wichtig, damit sie auch verstehen, okay, dieses Wort verstehe ich vielleicht nicht, aber wenn ich jetzt auf Englisch denke, ah ja, oder auf Französisch, ah ja, das haben wir schon einmal gehört oder gesehen und das ist eher ähnlich, dann kann es mir vielleicht helfen, wenn ich einen Text lese und dieses Wort nicht verstehe, kann es vielleicht mit anderen Fremdsprachen, kann es eine Hilfe sein oder auch nicht. Es gibt auch Enemy und so, ja, vielleicht kann es vielleicht eine Idee sein, wofür diese Übungen im Kursbuch da vom Genial Click, also Englisch kenne ich nicht, aber ja, im Genial Click dann auch schon vorgeschlagen sind. Wir haben vorletzte Woche noch mit, also das waren vor den Ferien, haben wir noch über Orte in der Stadt diskutiert mit den Schülern, Portugiesisch gehört, Italienisch und Englisch und das war sehr interessant auch, diese Schüler haben sich dann auch, das war dann vielleicht auch emotional, haben sie dann auch zeigen können, okay, ich kann es in einer anderen Sprache, im Deutschunterricht kann ich auch meine Sprache zeigen, also meine Muttersprache eventuell zeigen, den anderen Schülern hören lassen und vielleicht hat es etwas mehr Emotionales zu tun und dann eben motivierend, aber grundsätzlich denke ich auch, vielleicht nimmt es viel Zuwand für eine nicht sehr große, effiziente Arbeit. Aber das sind meine Argumente.
Sehr spannend. Jetzt, Carmen, du möchtest dich dazu äußern.
Une remarque sur ça. Enfin, moi, j'ai vécu ces dernières années à Genève. Genève est une ville très interculturelle et l'interculturel est de plus en plus, on va dire, à la mode et c'est opérationnalisé de différentes manières aussi. Et donc, il y a plusieurs choses. Il y a d'un côté l'enseignement des langues étrangères. Donc ça reste essentiellement l'anglais, l'allemand. Mais maintenant, surtout à l'école primaire, je dirais, il y a cette volonté de donner une visibilité aux langues d'origine des différents élèves, où on apprend par exemple des salutations, des petits mots, etc. Et c'est vraiment fait dans le but de les valoriser avec la totalité de leur bagage linguistique, sachant que très souvent dans ce débat, on est quand même dans un débat très très eurocentrique aussi. Là, on parle du français, de l'allemand et de l'anglais. Peut-être encore, si on va plus loin, de l'espagnol, de l'italien et du portugais, ou du russe, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup d'élèves en Suisse aujourd'hui qui ont des langues maternelles qui ne sont pas du tout valorisées, qui sont constamment perçues aussi comme des langues. Ben, dont, en fait, leur environnement leur renvoie de manière constante que ces langues-là sont inférieures parce qu'elles ne sont pas utilisées de la même manière qu'une langue devrait être utilisée. C'est une des limites de l'approche communicative. L'approche communicative enseigne aussi qu'est-ce qui est la manière légitime de communiquer. Et là, de nouveau, on est très souvent dans des contextes de communication et des actes de parole qui sont quand même culturellement connotés. Donc moi, je pense qu'il faut distinguer ces deux choses-là. Une chose, c'est de vraiment enseigner les langues étrangères. Et là, il y a un souci de performance, de compétence, il faut s'exprimer de manière correcte, etc. Et ensuite, il y a la communication interculturelle. Et je crois qu'il ne faut pas constamment confondre les deux. Ce n'est pas parce qu'on a appris l'allemand à l'école qu'on a des compétences interculturelles. Je connais des gens qui sont multilingues, qui ont zéro compétence interculturelle, parce qu'ils parlent trois langues voisines, et puis voilà, ça ne leur donne pas des compétences interculturelles. Donc je pense qu'il faut avoir une place pour valoriser les langues d'origine, mais ça ne poursuit pas le même but que l'enseignement des langues étrangères. C'est vraiment un autre but, c'est un but de cohésion sociale, d'autonomisation des élèves, leur donner confiance en eux, les rendre visibles, leur montrer que leurs langues ont le droit d'exister en Suisse, y compris à l'école, que ne pas connaître certains mots dans la langue d'enseignement n'est pas nécessairement une raison d'avoir honte si on a appris autre chose à la maison. C'est là où on valorise toute cette richesse de la diversité linguistique du pays. Mais je pense que l'erreur qu'on fait parfois, c'est d'essayer de faire tout ça dans des classes de langue étrangère ou de langue seconde, où l'enjeu est un petit peu différent.
Also bei uns in der Schule, wo wir auch 50% Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund haben, die können alle ein paar Wörter Arabisch, ein paar Wörter Albanisch, können sich auch beschimpfen etc. Funktioniert tipptopp. Und ich glaube, dort hat es auch seinen Platz.
Also mehr auf den Alltag dann, das Umfeld beschränkt, anstatt eben in den Sprachenunterricht integriert zu werden. Ist das so ein bisschen, wie ich jetzt heraushöre, der allgemeine Konsens, dass es wie den Fremdsprachenunterricht auch einfach überlädt, wenn man konstant noch diese Vergleiche ziehen sollte?
En fait, c'est pas tellement de mettre ça à la cour de l'école et puis d'évacuer ça de l'enseignement formel. Ça peut avoir sa place, mais pourquoi nécessairement dans l'enseignement des langues étrangères? On peut tout aussi bien faire allusion à la culture d'origine ou à la langue d'origine des élèves dans tout autre cours, y compris des cours d'histoire, de mathématiques, de géographie, peu importe, parce que c'est une réalité et c'est une réalité qui est là. Peu importe la langue d'enseignement.
Moi, j'adore. Hein. J'adore les langues et j'adore vraiment le multiculturel. Et, enfin, j'ai des enfants multilingues, j'ai vécu dans plusieurs pays. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Mais la question que je me pose, c'est comment fait l'enseignant de mathématiques pour valoriser le tigrinya? C'est super... Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? C'est qui parle amharique? Qui est capable de valoriser cette langue aujourd'hui? Moi, je ne sais pas faire. Et je me dis, mais comment faire, hein? Quelles compétences on demande à l'enseignant? C'est incroyable.
Bon, c'est pas forcément l'enseignant qui doit le faire, vu que les élèves ont ces compétences linguistiques. C'est simplement, moi, ce qui me dérange, c'est de dire, OK, là, pendant 5 minutes, on fait de l'interculturel. Et dites tous bonjour dans vos langues, et après, on passe à autre chose et on reparle français, parce que c'est ça la langue de la classe, et c'est comme ça qu'il faut parler. Et on va citer que des auteurs européens, on va dire que les mathématiques ont été inventées en Europe, etc. Donc, on ne peut pas opérationnaliser l'interculturel pendant 5 minutes dans un cours, puis passer à autre chose. Donc c'est quelque chose qui doit être présent de partout. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que voilà, les enseignants se heurtent aux limites aussi, mais ça fait partie justement du problème. Ça fait que le petit garçon qui peut être en cours parle amharique va se dire qu'il n'est pas bien placé pour devenir enseignant après. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'enseignants qui parlent amharique en Suisse? Donc c'est un petit peu ça le... Enfin, c'est à force de vouloir réduire la culture à la langue, en fait, on perd ce qu'il y a de plus important dans l'approche interculturelle, je trouve. On n'a pas besoin de faire multilingue pour faire interculturel tout le temps. C'est un petit peu en Suisse, je trouve, on confond volontiers les deux notions.
Das ist sicher eine spannende Feststellung, eben, dass man das Ganze auch voneinander trennen kann, beziehungsweise eben den interkulturellen Aspekt auch in sehr vielen anderen Bereichen anschauen. Jetzt habe ich noch eine konkrete andere Frage, und zwar an Sie beiden. Ich habe eine Nichte und 2 Neffen, die 2-sprachig sind. Und meine Nichte hatte kürzlich einen Vokabeltest in der Primarschule und sie musste übersetzen das Wort genial. Und zwar, ich weiß nicht mehr, ob von Deutsch in Französisch oder andersherum. Auf jeden Fall stand auf der Wortschatzliste genial, genial und sie hat es, glaube ich, mit super übersetzt. Und das war falsch. Das war falsch und das... zeigt ein bisschen ein anderes Problem auf, nämlich vielleicht auch, dass es gar nicht so einfach ist, als eigentlich einsprachige Lehrperson, wie zum Beispiel ich bin, nachher eine Fremdsprache zu unterrichten und konstant mit diesen lästigen Kindern und Eltern zu tun zu haben, die 2-sprachig sind. Wie geht man damit um? Jetzt sind Sie vielleicht ein bisschen die falschen Personen, um das zu fragen, aber ich tue es jetzt trotzdem.
Ganz einfach. Bei den 2-sprachigen, die sollen die Wortschatztests machen. Ganz einfach. Die sollen die Tests in den Kompetenzen machen. Das ist fair, aber... Wortschatztest ganz sicher nicht.
Mhm. Wortschatztest machen wir sowieso nicht mehr. Aber
ja, da
mit Noten. Aber natürlich.
Natürlich machen wir Wortschatztests.
Das ist ein Problem bei.
Hier ein bisschen subversiv.
Regelmäßig und oft.
Es gibt Kollegen, die dann natürlich ein bisschen Mühe haben mit diesen 2-sprachigen, weil sie sich selber nicht so richtig klarkommen mit der Sprache, also mit der Fremdsprache. sie haben ein Niveau, aber natürlich kann der zweisprachige Schüler dann besser Deutsch oder besser Englisch oder besser Spanisch oder Albanisch oder so als der Lehrer selbst. Und das kann zu Problemen kommen. Ich denke mal, wenn der Lehrer ein bisschen selbstbewusst ist, dann kann er dann auch ein Argument oder zwei oder drei geben oder dann ein bisschen intelligent sein und Kollegen fragen, die, okay, wie würdest du das korrigieren? Und jetzt, ich hatte nie den Fall. Also, aber natürlich ist es ein Problem. Also deswegen müssen eben die heutigen Studenten auch ein bestimmtes Niveau haben, wenn sie dann im Didaktikkurs zum Beispiel kommen, damit sie auch in einer Klasse Deutsch sprechen können.
Ich finde, es ist nicht ein Problem, sondern es ist eine Chance für den Lehrer, wenn man einen Muttersprachler oder eine Muttersprachlerin in der Klasse hat. Weil die kann man dann als Coach einsetzen. Ja. Also ich habe ganz unterschiedliche Lösungen. Einige, die nehmen ein Buch und lesen. Andere vielleicht, wenn es dann englische Muttersprache haben, jetzt während dem Englischkurs holst du das Deutsch nach, weil er das halt nicht gelernt hat. Und sonst, dass man sie als Coach einsetzt.
Ja,
der Coach,
ja. Aber einige Schüler mögen das nicht. Also, da kann
ja,
es
aber
auch sein.
Ja. Dann muss man halt mit dem oder der diskutieren und schauen, was möchtest du? Hast du irgendwo ein anderes Fach, wo du große Mühe hast? Dann nutze doch die Zeit, um dort zu arbeiten.
Ja, also bei mir ist es auch kein Problem, wenn ich dann...
Also hier, also das ist in dem Fall mehr ein lokales Problem, könnte man sagen, als ein eigentliches. Oder möchtet ihr noch etwas hinzufügen?
Non, mais là c'est la maman qui parle. Moi j'ai des enfants qui étaient anglophones, ils ont beaucoup souffert en cours d'anglais.
Wie genau?
Tout simplement parce que mes filles étaient formées à l'anglais américain et la maîtresse, il y avait des tournures qu'elle jugeait incorrectes, en fait, qui étaient parfaitement correctes, mais en anglais américain. Donc quand on a 10 ans, 11 ans, 12 ans, on a du mal à comprendre que sa langue, qui est presque sa langue maternelle, est jugée incorrecte par quelqu'un qui la parle avec un accent très fort. Donc voilà, c'est des situations. Et puis la maman derrière, bon, on dit, mais non, c'est la maîtresse qui a raison, la maîtresse elle a toujours raison. Voilà, ça c'est assez difficile, quoi.
Bon, moi j'ai vécu la même chose avec le suisse-allemand puis l'allemand. Enfin, la maîtresse qui avait appris le Hochdeutsch et puis qui n'acceptait pas les tournures suisse-allemandes, si on veut... ou du vocabulaire. Donc c'est vrai que c'est malheureusement le cas encore. J'espère pas trop encore à l'heure actuelle. J'espère que les enseignants sont aussi maintenant formés pour accepter aussi, encore une fois, cette interculturalité finalement. Bah oui, l'anglais américain ou l'anglais d'Angleterre ou même l'anglais australien n'est pas forcément le même. Tout comme nos accents allemands, le suisse-allemand, l'autrichien. Voilà, j'espère que on a une ouverture d'esprit assez grande à l'heure actuelle pour ne plus avoir affaire à ce genre d'enseignant. Mais je l'ai encore entendu aussi. Ma nièce a vécu ça aussi au niveau du collège.
Also sicher eine Frage auch für uns als Personen, die zukünftige Lehrerinnen und Lehrer ausbilden, was man dazu vielleicht auch mitgibt oder mit auf den Weg gibt. Aber ich glaube, wir sind zeitlich schon so ein bisschen in der Enge, zu meiner Lieblingsfrage zu kommen, nämlich die von Methoden und Strategien, die man anwenden kann, eben um Wortschatz zu vermitteln, aber eben auch um ihn zu trainieren. Und die Frage ist ein bisschen provokativ, ist jetzt, muss ich meinen Unterrichtsstil irgendwie pimpen, damit das besser funktioniert, damit die Leute motivierter sind, oder wie bringt man Schülerinnen und Schüler dazu, gerne Wortschatz zu lernen? Ist es überhaupt möglich?
Ich glaube, das Hauptproblem ist, die Lehrkraft muss wissen, was sie will. Ich glaube, wenn die Lehrkraft weiß, was sie will und das auch einigermaßen ein bisschen wissenschaftlich begründen kann, mit gesundem Menschenverstand, den man eben nicht ausschalten sollte, ich glaube, dann ist alles gut. Und es bleibt lästig und es gibt keine Abkürzungen. Aber man kann es ein bisschen fairer oder unfairer machen.
Inwiefern fairer und unfairer?
Dass man sagt, okay, ich gebe den Schülerinnen und Schülern während dem Unterricht Zeit, mit dem Wortschatz zu arbeiten. Wir machen das regelmäßig in kleinen Portionen. Ich erkläre ihnen Lernmethoden. Und das ist der Challenge, das ist schwierig. Ich habe mir überlegt, welche Wörter ich in den Wortschatz nehme und welche nicht. Ich habe meine Arbeit vorher gemacht. Und dann muss man dann vielleicht doch alle, mit allem noch so ein bisschen mit der Route dahinter sein, halt mit Wortschatztest, dass man abfragt. Und dann sieht man auch, gibt es Probleme? Kann ich dir helfen? Wo ist das Problem? Oder willst du nicht lernen? Wenn du nicht lernen willst, okay, kann ich dir nicht helfen. Und ich glaube, und es ist ja phänomenal, wie viel Wortschatz die Schüler lernen. Ich finde das absolut phänomenal. Ich bringe kein neues Wort mehr in meinen Kopf und die alles gelernt.
Haben wir damals auch gemacht. Gekonnt.
Nein. Wenn wir es gemacht haben. Nee.
Je pense que l'apprentissage du vocabulaire est d'abord une histoire de émotionnel, on y revient quand même, et puis du coup émotionnel, motivation. C'est clair que si à un élève on lui donne à apprendre pour le lendemain 30 mots, il va tout de suite se dire « Ah, mais je ne vais jamais y arriver, c'est trop difficile ». Et puis alors il y a l'élève studieux qui va s'y mettre. L'élève qui sera en internat, à vouloir avoir sa vie sociale, dira « Oh bon, 30 mots de son, j'y arrive pas, je le fais pas, on verra bien demain au test ». Et puis, je pense que c'est là le rôle très fort de l'enseignant aussi, justement, qui envoie l'élève pas avec 30 mots ou 40 ou 50 mots à apprendre d'un coup, mais qui justement lui le donne par petites étapes et qui lui montre « Ben voilà, oui, j'aurais pu à la fin de la semaine te donner les 20 mots, mais maintenant je vous ai donné tous les jours 5 mots ». Eh ben, les 5 mois, c'était facile. Vous avez eu l'impression que c'était facile. Vous y êtes tous arrivés. Et puis, à la fin de la semaine, les 5 mois, vous les savez encore. On les a travaillés aussi en classe. Je vous ai montré les techniques pour les mémoriser. On a fait tout un travail, ben, voilà, aussi de techniques d'apprentissage et autres. Et puis, je pense que l'élève qui arrive à la fin de la semaine en sachant ses 20 mots est bien plus content, est bien plus fier de lui-même, d'avoir réussi, finalement, ce challenge d'apprendre 20 mots. L'élève qui, à la fin de la semaine, ben, fait son test, il fait 1, et puis parce qu'il n'avait juste pas du tout la motivation de le faire, eh ben, la fois d'après, il reçoit ses 20 mots, il ne va pas les apprendre. La fois suivante, l'élève qui a bien réussi, ben, il aura aussi la motivation de continuer et puis de se réengager dans ce travail, parce que, comme l'a dit Peter, c'est vrai que c'est le côté fastidieux, il y est quand même. Moi, c'est vrai que je le dis tout le temps aux élèves, c'est clair qu'il y a une partie, oui, il y a personne qui aime être assis à son bureau pour apprendre du voc. Donc, il y a quand même une partie qui doit se faire à la maison. Je dirais qu'il y a un 80% qui doit être fait en classe et puis le 20% qui doit être après approfondi à la maison. Maintenant, c'est justement un des grands rôles de l'enseignant. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui a quand même évolué ces, on va dire, 20 dernières années, où il y a 20 ans en arrière, on leur donnait encore 2 pages à apprendre, et puis go, vas-y, apprends ton voc. Et puis maintenant, ben c'est vrai qu'on, ben voilà, il y a aussi des recherches qui ont été faites, et puis tout plein de techniques qu'on a à leur donner, et puis qui sont de notre devoir en tant qu'enseignant de leur présenter, et puis de leur donner. Après, l'élève qui n'a pas envie de travailler, qui n'a pas envie d'utiliser ces techniques, eh ben, comme l'a dit Peter avant, ben, en tant qu'enseignant, on ne peut pas faire grand-chose. Mais c'est sûr que si on l'a peut-être aussi motivé différemment, ça mène peut-être quelque chose. On arrive peut-être à en prendre plus dans le train que si on ne fait rien du tout.
Wobei, wenn ich das richtig herausgehört habe, spielen schon das Ermöglichen von Erfolgserlebnissen eine große Rolle im Bereich dieser Motivation.
Ich denke schon, ja.
Jetzt, ich habe die Hoffnung noch nicht so ganz aufgegeben, dass es eben doch so eine kleine Abkürzung oder doch immerhin Methoden und Strategien gibt, die so ein bisschen besser funktionieren als andere.
Non, non, je voulais pas parler des stratégies, pardon. Non, je voulais juste rebondir sur l'histoire de la motivation, parce qu'il y a une étude qui m'a fascinée, qui a été faite par deux chercheurs qui s'appellent Erler et Macaro, qui date de 2011. Et en fait, c'est venu de la constatation que les élèves anglais, dans leur cursus, ils sont obligés d'apprendre le français, puis à un moment donné, ils ont le choix, et ils abandonnaient massivement le français. Et ils ont voulu trouver... quel était le facteur qui les démotivait le plus dans cet apprentissage. Et ils se sont rendus compte que, en fait, les élèves pensaient pouvoir décoder les mots, c'est-à-dire lier la forme orthographique au son qu'ils faisaient, et qu'en fait, ils n'y arrivaient pas, alors que les élèves s'auto-estimaient capables de le faire. Et quand ils ont analysé les raisons de la démotivation, ils disaient que le français était une langue bizarre, que c'était jamais ce que ça voulait dire, que ça voulait dire, que... Et leur analyse, c'est qu'il y a une telle interférence au niveau de l'association graphème-phonème qu'à l'écrit, ils utilisent toute leur attention, leur charge cognitive, juste à essayer de faire du mot à mot, et ils n'arrivent pas à construire la compréhension globale. C'est-à-dire que cet accès au lexique, hein, c'est-à-dire l'identification du mot, du vocabulaire, c'était tellement laborieux que ça les démotivait totalement. Et donc, je voulais juste faire la remarque que ces relations graphème-phonème, on ne les enseigne jamais en français, langue étrangère, et que le français est une langue opaque, et que ce n'est pas évident de savoir pourquoi il diffère au pluriel, je dis diffère, et différent, qui s'écrit de la même façon quasiment, eh bien, je prononce le ENT en en. Et donc voilà, c'est juste un exemple pour montrer ce que c'est que l'opacité de la langue, et pour montrer que des difficultés cognitives sont des facteurs de démotivation pour l'apprentissage.
Dann verstehe ich, worüber du sprichst. Ich glaube wirklich, dass die Aussprache, das ist extrem wichtig. Und ich glaube, man kann das auch mit sehr viel Humor machen, weil bei mir ist es ein großer Teil, alle Wörter werden vorgesprochen, wiederholt und einige Wörter machen wir 10-mal. Und dann mit Emotionen oder dass man halt mit schwierigen Wörtern flirten kann. Comfortable. auch in einem geschützten Rahmen. Einfach, dass man ein bisschen damit spielt, bis es dann richtig ist, weil es muss irgendwann richtig sein. Kuchen und Küche ist nicht das Gleiche.
Mais le problème était vraiment la forme orthographique, le lien forme orthographique, forme phonologique. Et c'était vraiment ce lien qu'ils n'arrivaient pas à établir. Et ils ont, dans leur étude, ils concluent que c'est le facteur principal de démotivation.
Weil es aber auch nicht unterrichtet wurde. Und ich hatte jetzt gerade eine ehemalige Schülerin, die in England war. Und sie hat gesagt, der Französischunterricht war eine Katastrophe. Und es überrascht mich dann nicht, wenn die Kommunikation dann eben nicht funktioniert. Logisch, dass man demotiviert ist, oder? Und ich glaube auch, aber das weißt du besser, früher ist man davon ausgegangen, dass die Französischsprachigen Englisch nicht richtig aussprechen können. Und deshalb hat man sich auch gar keine Mühe gegeben, die englische Aussprache zu üben, zu trainieren.
Ich glaube eben, c'est ce que je voulais rajouter, c'est peut-être aussi historique, il y a des choses historiques quand même dans les apprentissages et les motivations. Nous, dans le cours d'allemand, de moins en moins quand même, mais heureusement vu que c'est historique, mais on a eu pendant longtemps des parents qui partent derrière, disant oh, tu verras, l'allemand c'est difficile, ça en fait de la grammaire, puis il y a le datif, l'accusatif, et puis le nominatif, puis ça, tout ça paraît, puis tu verras, les phrases elles sont complètement à l'envers du français. Et du coup, on avait des élèves qui arrivaient qui étaient déjà paniqués à l'idée que l'allemand pouvait être difficile. Maintenant, je pense qu'on a de plus en plus des parents qui ont passé par des méthodes plutôt communicatives. Et puis, il y a plus cette aura de allemand langue difficile, mais plutôt, bah oui, ça, bah c'est clair que ça reste une langue étrangère, bah comme l'anglais, c'est difficile à prononcer, mais on n'a jamais dit que l'anglais était une langue difficile. Les élèves préfèrent toujours l'anglais à l'allemand la plupart du temps, alors qu'à prononcer, c'est juste terrible, à écrire, c'est juste terrible aussi. Mais voilà, je pense qu'il y a ce côté un petit peu historique, du vécu peut-être aussi des parents, de ce qu'ils ont vécu à l'école il y a 30 ans en arrière, 20 ans en arrière, et puis qui peut après quand même beaucoup influencer l'enfant en question. Peut-être que ça a aussi un rôle à jouer là-dedans.
Je vais peut-être t'aider à faire la transition pour la question suivante. mais je voulais dire que l'anglais, c'est quand même un cas à part. Parce que justement, les enfants jouent beaucoup aux jeux vidéo, regardent beaucoup de films en anglais. Donc, ils ont une quantité d'input qui est très nettement supérieure à celle du français. Ils vont pas jouer donc sur Internet en français. Je veux dire, qu'ils soient francophones ou germanophones, c'est en anglais. Et là, il y a des études qui montrent qu'il y a un apprentissage qui se fait du vocabulaire avec ces jeux électroniques, etc. Donc, je pense qu'on peut, même si l'anglais est opaque, la proportion d'input est tellement déséquilibrée entre le français et l'anglais en tant que langue étrangère que la condition d'apprentissage n'est pas la même.
Non, ça c'est bien clair, ça c'est évident. Même la musique, enfin toute la musique qu'ils écoutent, il y a beaucoup, 50% c'est de l'anglais, donc ils entendent tout le temps, c'est sûr. Ça c'est une évidence.
Oui, mais même quand on se promène dans Fribourg, qu'on regarde les publicités, faites attention au nombre de fois où il y a de l'anglais sur l'affiche. Moi c'est quelque chose qui toutes les fois m'étonne. Mais il y a des phrases entières en anglais et puis une autre phrase en allemand, puis des fois il y a un bout de phrase en français, et puis tout ça se mélange avec beaucoup de naturalité.
Okay, also wir haben jetzt unterschiedliche Einflüsse eben auf dieses Erlernen oder die Schwierigkeit beim Erlernen von bestimmten Sprachen oder Sprachkombinationen auch gesehen. Ich habe die Hoffnung immer noch nicht ganz aufgegeben, dass ich jetzt doch endlich noch zu etwas komme, was mir das Wortschatzlernen oder das Lehren von Wortschatz eben vereinfacht. Garmen. Du bist meine letzte Hoffnung. Und zwar in Bezug auf das Abrufen vielleicht auch von Wortschatz im richtigen Moment.
Okay. Das ist jetzt eine große Aufgabe, das zu beantworten, aber ich versuche es. Also ich glaube, der erste Grundsatz, das ist, denke ich, heute allen bewusst, ist, es ist ein Marathon und kein Sprint. Und es ist besser, man hat eine kleine Anzahl Wörter oder kurze Wortschatzlisten, dafür aber konstant, als dann plötzlich am Vorabend vor der Prüfung 200 Wörter lernen müssen. Das ist klar, und da ist im Schulsystem, gibt es da sicher auch einige Einschränkungen, weil die Struktur mit dem akademischen Kalender, Ferienzeit und natürlich die Examen, die benotet werden müssen und so weiter, das Bildungssystem ist nicht darauf ausgerichtet, dass man Sprache lernt, sondern der Sprachunterricht muss sich dem Bildungssystem anpassen, in gewissem Sinne. Sind Sie nicht einverstanden?
Nee, okay. ich verstehe jetzt nicht, was das Schuljahr...
Dass man zum Beispiel dann im Sommer 2 Monate lang möglichst gar nichts mehr mit Deutsch zu tun hat und dann kommt man wieder zurück im August.
Okay.
Das wäre nicht ideal, wenn man einfach eine Sprache lernen möchte, aus eigenem Antrieb, eigener Motivation.
Okay, aber nachher, dass wir das regelmäßig in kleinen Portionen lernen, das können Lehrkräfte machen, wenn sie es wollen.
Ja. Ja, nein, das ist klar. Aber ich meine, dass wenn man aus eigenem Antrieb eine Sprache lernen müsste, wäre es besser, jeden Tag eine halbe Stunde, als plötzlich 4 Stunden und dann eine Woche später wieder 4 Stunden. Das ist eine mögliche Abkürzung. Ich kann als Beispiel geben, bei uns zum Beispiel im Masterkonferenz Dolmetschen, wo wirklich alle massiv an ihrem Vokabular arbeiten mussten, in allen Arbeitssprachen. Man ist davon ausgegangen, dass wenn man sich pro Woche etwa 10 neue Wörter aneignet, dann natürlich mit den Äquivalenten oder Entsprechungen in den verschiedenen Sprachen. Aber pro Woche 10, das war schon sehr, sehr viel. Aber wenn man das über Jahre macht, und viele Dolmetscher machen das einfach als Teil ihrer Berufshygiene sozusagen, wenn man das über Jahre macht, dann kommt einiges zusammen an Vokabular. Und ich denke, das ist das Wichtigste, ist, dass am Anfang ist man sehr ungeduldig, weil man möchte natürlich Wörter haben, um zu sprechen. Und man ist dann vielleicht auch enttäuscht, weil es nicht so schnell geht, wie man möchte. Und das Wichtigste ist dann, konstant am Ball zu bleiben. Das ist das eine. Und was die Strategien betrifft, das hängt natürlich extrem stark vom Niveau ab, das man bereits hat in einer Sprache. Wenn man bereits ein Niveau hat, wo man einen Text lesen kann, der einen interessiert, ideal ist natürlich, man liest das, was man gerne in der Erstsprache lesen würde. Man liest einen Text, der einen interessiert, und dann hat man pro Seite vielleicht 3, 4, 5 Wörter, die man wirklich suchen muss, damit man es versteht. Und alle anderen muss man vielleicht, kann man so herleiten und versteht man vielleicht nicht 100%. Ich glaube, eine Strategie ist auch zu akzeptieren, dass man nicht immer jedes Wort verstehen muss. Und dass man einfach in der Fremdsprache manchmal lesen kann, ohne unbedingt jedes Wort nachschlagen und nachschauen zu müssen, sondern dann sagt, okay, ich schaue jetzt 3 Wörter nach pro Seite maximal. Aber ansonsten, wie gesagt, also ich denke, es gibt keine Zauberformel und keine Abkürzung. Aber ich muss sagen, ich finde, ich selber funktioniere auch sehr so, wie es vorher gesagt wurde, wenn ich ein neues Wort lerne, dann schaue ich mir direkt alle Verknüpfungen an, dann schaue ich mir an, das ist das Verb, okay, was ist dazu das Nomen, welche Verbindungen gibt es, welche Adjektive lassen sich daraus ableiten, wo wird das Wort in Kombinationen verwendet, aber das ist natürlich was für fortgeschrittene erwachsene Lerner.
Les stratégies, peut-on penser aux stratégies d'enseignement? Et j'ai eu une surprise dans ma thèse, où j'ai comparé 2 séquences didactiques, une sur laquelle on a travaillé que les représentations phonologiques, sans jamais travailler la valeur sémantique, et de l'autre côté, on a travaillé que en communicatif avec le même vocabulaire, et j'ai mesuré quelle était l'acquisition du vocabulaire réceptif après l'enseignement des 2 séquences didactiques qui ont duré 6 semaines, et j'ai eu la surprise de constater que dans le groupe où nous n'avions pas enseigné la sémantique, mais uniquement les valeurs phonologiques, ils égalaient en performance le progrès de ceux qui avaient travaillé sur la sémantique. Tout ça pour dire l'importance de ces représentations multidimensionnelles, et c'est pas toujours qu'on travaille en même temps la valeur sémantique, la valeur phonologique et la valeur orthographique, et que sans doute il y a quelque chose qu'on peut penser dans la structure même des méthodes pour aider les enseignants à construire de façon multidimensionnelle ce lexique de la L2. C'est-à-dire faciliter ces connexions entre des dimensions différentes qui ne sont pas si facilement et si automatiquement réalisées.
Dankeschön.
Pour rebondir un peu aussi sur ce multidimensionnel utilisé, enfin moi j'essaye aussi de plus en plus d'utiliser toutes les différentes mémoires aussi que l'enfant pourrait avoir plus ou moins développées, l'auditif, le visuel, par le toucher. Je lisais encore cet après-midi tout un article sur aussi le goût, etc. Donc ça, dans certains domaines, on pourrait l'utiliser aussi. Je l'ai encore jamais fait, mais c'est vrai que après voilà toute la gestuelle, la mimique, faire du théâtre, les faire mimer des actions, c'est quelque chose qui pour certains élèves fonctionnera. Certains élèves seront très visuels, donc voilà, c'est le faire visuel, ok, mais d'autres seront très auditifs. Donc il faut aussi penser à utiliser plusieurs canaux. Je pense que ça pour toucher un maximum d'élèves, on a jusqu'à 29 élèves en classe, donc on ne peut pas faire d'individuel, mais on est obligé de faire un peu de tout pour que chacun puisse y prendre ce qui lui convient finalement. Puis je pense que dans les techniques qu'on leur soumet aussi, c'est un petit peu ce projet-là. C'est voilà, moi je vous présente plein de techniques d'apprentissage, maintenant à vous d'essayer et puis de regarder quelle est celle qui vous convient le mieux. Alors c'est vrai qu'à l'âge de nos élèves secondaire 1, ils ont gentiment ce regard sur leur apprentissage, et puis ils se rendent compte, ah, mais ça c'est pas très efficace, et puis d'autres techniques, ah ben là j'ai travaillé moins longtemps pour un meilleur résultat. Donc je pense que gentiment ils arrivent aussi à voir un petit peu le panel d'activités qui fonctionnent pour eux, puis celles qui sont inutiles, quoi. Enfin pas inutiles, mais vraiment pas du tout efficaces.
Mais du coup, pardon, efficace dans quel sens? Dans le sens de réussir l'examen ou dans le sens de pouvoir ensuite parler?
Dans le sens de pouvoir après produire ou comprendre des textes écrits ou oraux, quoi. Ça après. Alors c'est sûr que l'élève, il en est encore efficace dans le sens de la note du résultat final, mais l'objectif pour nous, c'est quand même qu'il soit communiqué, quoi. Mais c'est clair que nous, on teste, parce qu'on a encore un système qui est basé là-dessus. Mais l'objectif final, c'est qu'ils arrivent pour les PG au niveau B1. Donc, puis là, on regarde les compétences, quoi.
Und ich glaube, wir testen, ich glaube, schon relativ intelligent. Also, dass jetzt, es gibt leider vielleicht keine Noten mehr für Wortschatz und Grammatik, aber es wird lesen, schreiben, hören, sprechen wird getestet. Und ich glaube, das ist dann, ich finde das schon relativ fair. Und ich finde es schwierig, in den Sprachen für einen Test zu lernen. Weil es ist, geht dann um Leseverständnis. Es ist nicht mehr Grammatik. Wir testen das im Schreiben, im Sprechen. Weil für einen Grammatiktest, da konnte man lernen. Und kurzfristig. Für ein Lesen, das ist komplexer, weil man braucht den Wortschatz, man braucht vielleicht auch ein bisschen Grammatik, man muss verstehen, ist das im Präsens oder in der Vergangenheit. Nein, ich glaube, Schulerfolg, eine gute Note haben, korrespondiert doch ziemlich gut ihrem Sprachniveau. Also da bin ich, ich finde, die Freiburger Schulen machen dort einen guten Job.
Das ist sicher eine sehr interessante Frage, oder? Wie da die Überlappung jetzt ganz konkret aussieht und wie man auch testet und wer testet und zu welchen Ergebnissen man dann kommt. Jetzt sehe ich aber, die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten. Alle möchten zum Apero. Aber ich wollte doch noch fragen, ob es Fragen gibt. Oder Bemerkungen.
Oui, nous avons entendu beaucoup de concepts différents, les relations avec la langue une, et peut-être que c'est langue une, c'est plusieurs langues, donc le plurilinguisme, la langue 3, l'anglais après l'allemand ou le français, AOL, language awareness, input, intake, output. Donc on a vu que c'était plurifactoriel, on a entendu pluridimensionnel, mais c'est aussi plurifactoriel, la motivation, le prestige des langues, etc. Mais là, je vois méthode, et vous n'avez encore pas parlé, mais peut-être que c'est le thème d'une autre soirée. Une méthode serait par exemple de lier beaucoup mieux la langue et le contenu, c'est-à-dire d'avoir des contextes authentiques, d'avoir des textes authentiques, d'avoir plus de motivation, d'apprendre avec tous les sens, comme vous l'avez mentionné, et de parler par exemple de l'enseignement bilingue ou de l'immersion. Ça ne veut pas du tout dire qu'on apprend le vocabulaire ou la langue comme la langue une, parce qu'on apprend les langues une seule fois dans la vie, cette fenêtre, elle ne revient pas. Mais quand même, l'enseignement bilingue et l'immersion, c'est quand même une situation qui est plus motivante, qui est plus naturelle, qui est plus authentique. Donc ça, ce serait peut-être une méthode. J'ai tiqué un petit peu, Nathalie, sur la correspondance entre la phonétique et les graphèmes, parce que le finnois, par exemple, est une langue hautement phonétique, donc si on te dit quelque chose, tu feras zéro faute à la dictée, mais tu ne vas rien comprendre. Donc on voit qu'il y a tellement de facteurs différents. En arabe aussi, l'arabe est réputé une langue très difficile, mais si c'est bien prononcé, on fait une dictée quasiment sans faute. Donc on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui jouent un rôle. Et puis la charge cognitive, oui, mais est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas des stratégies pour éviter ou pour réduire cette charge cognitive? Enfin, ça, c'est des questions que je me pose aussi en tant que plurilingue, mais aussi en tant qu'enseignante de langue et en tant que chercheuse dans le domaine du plurilinguisme. Voilà, merci. C'était plus des constatations que des questions directes. Merci.
Je voudrais juste réagir sur pourquoi ça pose problème qu'on n'ait pas accès à la valeur phonologique. C'est en fait, c'est simple, ça limite l'accès lexical. Donc, au moment de la compréhension orale, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas la représentation. Donc là, ça pose problème. Et puis au moment de la production orale, au moment où on planifie ce qu'on va dire, eh bien quand on n'a pas la représentation phonologique, c'est beaucoup plus complexe aussi, parce qu'on a beaucoup plus de mal à préparer le discours et on passe du temps sur des choses qui devraient être automatisées. Donc c'est vraiment un problème. Moi, je suis assez intimement persuadée que le son de la langue est au cœur du fonctionnement cognitif et que sa maîtrise permet de libérer des capacités attentionnelles pour faire des choses de plus haut niveau comme la compréhension ou la préparation, le contrôle et la réalisation du message en production.
Donc là, tu es dans l'oralité, mais quand tu lis, tu as aussi une représentation phonétique, indirectement.
Oui, oui, tu as une inner voice, bien sûr, parce que ton accès lexical, alors tu peux reconnaître juste la structure orthographique, bien sûr, hein, comme un tout, sans passer par la phono. Mais par exemple, il faut savoir que quand on propose des pseudomots qui sont écrits dans des codes phonologiques de ta langue une, tu vois, dans un apprentissage d'une langue artificielle, quand tu proposes quelque chose qui est congruent, ça s'apprend plus facilement. Hein, et quand tu proposes un code qui n'est pas celui de la langue une, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de mal à apprendre ce code écrit, justement parce que s'il y a cette gestion de comment j'accède au son. Hein, et ça, on sait que c'est l'accès lexical, il est hautement conditionné, tant au niveau de accuracy, du mot choisi correct, que du temps que ça prend pour accéder ce mot. Et puis le temps, c'est de l'argent. Mais c'est une image, mais c'est pour dire que ce temps, ben, c'est une capacité d'attention. Et si on le passe dans un processus qui est quand même un processus de bas niveau, eh bien, on n'a pas cette attention disponible pour des processus de plus haut niveau.
Et puis ça, ce serait pas seulement dans une situation de laboratoire, mais dans une situation naturelle.
Complètement, ouais. Non, non, il y a des études en situation naturelle. Il n'y a pas qu'en laboratoire, ouais.
Also wäre das doch so eine kleine Abkürzung, oder? Ein bisschen.
On veut réagir dans le canton de Fribourg, le bilinguisme est quand même beaucoup mis en avant par beaucoup de classes bilingues. Je ne sais pas si vous en avez à Pérol, mais c'est vrai que nous, cette année, en 11e année, on a deux classes bilingues où ils font tout ce qui est économie familiale, histoire, géo, civisme, ils font en allemand. Donc c'est clair que ce côté immersion, finalement, y est aussi. Et puis, je pense que c'est une des grandes forces du canton de Fribourg de pouvoir proposer ça. Et puis, nous, on voit, en tout cas à Romont, il y a énormément d'élèves qui s'inscrivent, au point qu'on peut ouvrir une classe de pré-gymnasial, puis une classe d'élèves de général aussi. Donc, il y a vraiment de l'intérêt pour ça aussi. Les élèves se rendent aussi compte de l'importance et puis finalement de l'apport que ça peut leur amener à d'être dans des classes bilingues. Et puis, je dirais que l'immersion est aussi proposée dans toutes ces possibilités d'échange qu'il y a aussi, qu'on doit faire en 10e année ou qu'on propose aux élèves après la fin de la 11e en échange linguistique de 12e année. Donc, je pense que de ce point de vue-là, les élèves ne sont pas mis de côté. Enfin, voilà, le bilinguisme n'est pas mis de côté. Puis, je pense que ce côté immersif a été bien soutenu par le canton et puis fait tout en ouais ils font en sorte que ça fonctionne quoi.
Das schließe ich vielleicht an das an, was du gesagt hast. Man muss ein gewisses Niveau haben, damit man dann eben lesen kann oder wirklich kommunizieren kann, und das ist ab dem B1 Niveau, weil da kann man sich dann ausdrücken. Und dann kann man dann eben Sachen machen, die mehr Spaß haben, wie lesen oder Unterricht machen, mehr mündlich. Und man versteht es oder versteht die Situation und kann reagieren. Mhm. Und ich glaube, der Kanton Freiburg macht da wirklich sehr viel und ist ein Vorbild.
Gibt es noch weitere Stimmen aus dem Publikum? sage normalerweise im Unterricht nicht alle auf einmal. Aber ja, ich denke, die Zeit ist auch schon einigermaßen fortgeschritten. Und das heißt, ich würde gerne so ein bisschen zu einem Ende kommen. Ich denke, ein sehr wichtiger oder eine Lehre, die wir aus dem heutigen Abend ziehen können, weil ich bin ja schlussendlich doch einfach Lehrerin und muss darum auch immer Lehren weitergeben. Und diese Lehre wäre vielleicht eben das eine sicher mal, dass man das Wortschatzlernen, also dass es einfach nicht zu überschätzen ist. Dass es eine sehr zentrale Rolle spielt, eben auch im Hinblick auf diesen kommunikativen Ansatz. Dass es dann leider eben nicht die eine Strategie oder Methode gibt, nach der wir vorgehen können, sondern dass es eben so ein bisschen von diesen verschiedenen Lernertypen abhängt, aber eben auch dem Sprachniveau, das man schon erreicht hat. Und dass es aber sicher auch noch einige Aspekte gibt, die wir bisher vielleicht zu wenig beachtet haben in diesem Wortschatzlernen. Und dass es gerade darum sehr wichtig ist, oder wenn sich hier Unterrichtspraxis und Forschung treffen und sich gemeinsam austauschen. Ja, und die dritte Lehre ist die meinige, dass man seinem Schicksal eben nicht entkommen kann. Und unser Schicksal ist jetzt der Apro.
Vielen Dank und einen schönen Abend noch. Vielen Dank.